Pour connaître la mission du Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay, j'accueille, elle est au bout du fil, Annick Hall, qui est directrice générale du Centre. Bonjour, Madame Hall.
Bonjour, bonne année à vous.
Bonne année à vous. Merci beaucoup, vous êtes bien gentille. Alors, parlez-nous du Centre. Quelle est sa vocation?
En fait, il y a 117 centres d'action bénévole sur le territoire du Québec. Nos vocations, donc, c'est d'apporter le bénévolat dans les différents milieux et c'est de soutenir là, avec des différents services bénévoles auprès d'usagers dans nos communautés. Nous, on est spécialisés davantage proche aidant, personnes aînées. Vous allez voir d'autres centres d'action bénévole qui sont beaucoup à promouvoir le bénévolat, mais auprès des jeunes aussi.
Et Mme Hall, vous êtes vous-même bénévole? Vous n'êtes pas bénévole, vous êtes directrice générale du centre. Est-ce que vous avez commencé par être bénévole à ce centre?
Moi, je suis issue de l'immigration, donc via mes parents, pour assurer une intégration, on a fait du bénévolat, donc bénévole depuis très jeune. Mais sinon, je suis bénévole en ce moment en tant que proche aidante, parce qu'on ne reçoit pas de salaire, il n'y a pas de fonds.
Non, pas encore.
Mais, Non, on le souhaite, mais à la direction, et j'ai 10 employés, donc rémunérés au Centre d'action bénévole.
D'accord.
Et on a une centaine de bénévoles, puis environ 150 proches aidants actifs.
Parfait. Vous êtes donc à ce centre à titre de directrice générale depuis octobre 2014.
Exactement.
Vous êtes, vous l'avez dit, proche aidante. Parlez-nous un peu de votre expérience.
On n'est jamais préparé à ça. C'est arrivé avec la détection d'un cancer chez mon père il y a 10 ans. Mm-hmm. Puis on a combattu à tous les jours toutes les émotions qu'on pouvait vivre aussi. Ça arrive par surprise souvent. Ça arrive, on s'y prépare pas. Puis même, on peut, oui, s'y préparer quand on voit nos parents vieillissants, par exemple, ou notre conjoint qui des suites d'une maladie. Mais c'est très difficile. C'est très
oui. Difficile. Alors, votre père a eu un diagnostic de cancer et puis vous dites, on s'y attend pas. On s'attend pas non plus à devenir quelqu'un qui va être proche aidant ou proche aidante.
Non, parce que nos rôles aussi changent au sein de la famille. Tu sais, mon père a pu vivre un autre 6 mois après son diagnostic, mais c'est le rôle que j'ai pris ensuite dans ma famille. Ma mère qui me demandait toujours conseil, l'appui à apporter aussi, puis avec un frère. Tu sais, j'étais, et là, aujourd'hui, je suis proche aidante de ma mère, mais je dirais, je suis rendue la mère de ma mère. Ma mère est rendue plus un enfant parce que je suis là à prendre soin d'elle, qui est correct aussi parce que quand tu y penses après avec du recul, tu fais ben oui, mais c'est logique. Ça arrive, c'est des surprises. Mm-hmm. C'est surprenant de voir la résilience qu'on peut avoir, puis de je regarde les proches aidants, là, puis de passer au travers, puis mais on perd des plumes. On perd des plumes en Yana.
Qu'est-ce que vous voulez dire, on perd des plumes? Vous perdez de l'énergie, vous perdez, de l'argent, j'imagine, parce qu'on n'est pas payé quand on est proche aidant.
Exactement. Donc, c'est très difficile sur le plan financier, dépendamment aussi du rôle. Tu sais, si c'est ton conjoint, tes parents habitent avec vous, ben soit vous quittez votre emploi, des fois même il y a des frais pour ajuster la maison, etc. Mais il y a un coût émotionnel, ouais, au niveau énergétique aussi, qui est très difficile. Puis même au niveau social aussi, là, il y a des gens qui se sont coupés de leur réseau. Parce que c'est pas le fun quand on prend soin d'un proche puis qu'on y met beaucoup trop de temps.
On s'oublie complètement puis on oublie sa vie jusqu'à un certain point, ses amis, ses activités. Oui. Et est-ce que le Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay aide, offre des services aux proches aidants?
Oui, depuis 2008.
Depuis 2008? Donc depuis 15 ans, même 16 ans.
Oui.
Alors, quel genre d'aide vous offrez?
Mais depuis les tout débuts, c'est de l'écoute. écouter le proche aidant pour ensuite être en mesure de le référer vers soit les bons services ou tout simplement de l'écouter et de l'appuyer dans sa démarche. Donc, on appelle ça le soutien psychosocial. Il y a aussi, on voyait que les gens avaient moins de connaissances à l'égard de des ateliers sur la culpabilité, des sujets comme le deuil blanc, mais aussi parfois même sur les maladies, que ce soit le Parkinson, le cancer, etc. Donc, les gens voulaient aller chercher ces notions-là. Donc, on peut aller offrir des formations soit via nos intervenants ou même par rapport à des partenaires dans notre réseau aussi qui peuvent venir informer, par exemple, avoir la visite d'un notaire pour nous expliquer le mandat de protection, le testament, la procuration, etc. Donc, des outils pour le proche aidant, parce que c'est beau aller sur les internets et fouiller, mais parfois, l'information, il faut la recevoir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc, avec la répétition, puis quand on est dedans aussi dans la situation, le timing est bien important. On offre aussi différents cafés-rencontres. Donc, oui, c'est sur un sujet précis. Toutefois, on laisse la chance aux proches aidants de partager et de s'entraider aussi. Donc, déjà là, d'avoir ce petit réseau-là avec eux, des groupes de partage aussi, et une formation qui s'appelle « Comment prévenir la détresse, comment prendre soin de soi pendant la prochaine danse ».
Et puis, c'est justement ce genre d'atelier, de café-rencontre qui font en sorte que le proche aidant ne se sent pas seul complètement, sort de son isolement, parce que vous parliez d'Internet, c'est bien beau Internet, mais il n'y a pas de cœur nécessairement dans l'ordinateur. Alors, j'imagine que ça fait du bien au proche aidant. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qui les préoccupe le plus? Vous avez parlé de culpabilité, de deuil blanc. C'est quoi un deuil blanc d'ailleurs?
Le deuil blanc, je vous le dis comme par exemple, moi, ma mère vient de perdre l'usage de ses jambes et j'ai vécu un deuil blanc, j'ai vécu une peine. Est-ce que je pourrais plus marcher à ses côtés? Ouais. Là, je la coupe dans sa chaise roulante. Fait que c'est toutes ces émotions-là. Par exemple, un couple, par exemple, que madame tombe malade, ben, monsieur peut dire, ah, oh, mais là, on ne pourra plus voyager. C'est des deuils, autant des choses tangibles qu'intangibles aussi. Mm-hmm. Donc, ça nous amène aussi au grand deuil aussi, là.
Quand on perd, quand l'aidé meurt, c'est ça.
Exactement. Ouais.
Et justement, quels sont les services que vous pouvez offrir? Parce que j'imagine qu'il y a un deuil à faire de son rôle de proche aidant, en plus du deuil de la personne aidée, là, quand la personne aidée quitte la terre, là. Comment vous accueillez ces proches aidants-là, qui ne le sont plus finalement?
Non, exactement. Et c'est pour ça que nous, on a reçu un financement très récemment là, via le gouvernement avec son plan d'action pour les personnes proches aidantes. Depuis quoi, 15-16 ans qu'on offre des services et on pouvait pas offrir du soutien auprès des aidants endeuillés. Et maintenant, on peut le faire parce que ça fait partie justement de la trajectoire du proche aidant. Donc, au niveau du deuil, oui, on perd un proche. Ça se peut qu'on perd le proche, mais on demeure quand même proche aidant, mettons, de notre deuxième parent. Donc, comment continuer d'être proche aidant tout en vivant un deuil? Ça, c'est un défi, ou tout simplement l'absence que nous ne sommes plus proche aidant parce que la seule personne que nous prenions soin et décédé. C'est beaucoup au niveau de l'écoute et nous-mêmes, on est en train de s'informer sur le sujet, mais c'est d'accepter qu'on soit, tu sais, une fois qu'on vit le deuil, c'est d'accepter ce rythme-là. Si on veut être très cartésien, tu sais, il y a des étapes du deuil. Moi, personnellement, je les ai vécues dans un désordre et 10 ans après, j'en vis encore.
Comment ça, dans un désordre?
Dans un désordre, parce que c'est peut-être par rapport à moi, mes traits de personnalité, mais moi, des fois, j'avais de la colère, je revenais dans du déni, disant, ben non, ça se peut pas.
Quand votre père est décédé?
Oui, quand mon père est décédé. Puis même, à un plus léger niveau, par rapport à des deuils blancs, puis dire, ben non, ça se peut pas. Puis là, je regardais des photos de ma mère, je dis, ben oui, il est en chaise roulante. Oh my God, c'est vrai. Là, l'émotion revient. Donc,
d'où l'importance de partager toute cette peine, ces émotions-là. Vous parliez de culpabilité. Pourquoi le proche aidant ou la proche aidante se sentirait coupable? Coupable de quoi?
On peut revenir à des blessures d'enfance par rapport à la culpabilité. Tu sais, Lise Bourdeau en parle, il y a 5 grandes familles là, d'émotions, mais c'est comment le gérer au moment présent, puis d'assurer un futur un peu plus doux, si on peut dire, pour le proche aidant, mais... La culpabilité peut être, est-ce que je vais visiter ma mère assez souvent?
Ah ouais.
Est-ce que j'ai assez les connaissances pour aider mon proche? Pourquoi je perds patience avec mon proche? Pourquoi que la communication aussi peut changer entre le proche aidant et l'aidé et dire, ça se peut pas, je suis tannée. Tu sais, je veux arrêter ça, je veux changer de vie. Donc, toutes ces idées qu'on peut avoir, mais parfois on veut pas en parler non plus dans notre réseau, parfois même on n'a plus de réseau. Donc c'est ça l'importance d'aller chercher de l'aide extérieure puis de dire j'ai besoin de ventiler. Quand je suis en groupe, je me compare et je me console.
On se rend compte qu'on n'est pas seul à vivre ce genre de sentiment-là.
Exactement.
Et Annick, vous avez mis sur pied avec votre équipe, j'imagine, un volet proche aidance pour les immigrants. En quoi consiste ce volet-là?
Oui, très important. Nous, nous sommes dans un territoire, donc la région de Châteauguay. Il y a beaucoup d'immigration aussi. Mais l'importance d'appuyer non seulement, les proches aidants immigrants, mais aussi les enfants. Je vous dirais première, deuxième génération. Par exemple, l'enfant qui doit assister son parent dans le bureau du docteur pour faire la traduction. Donc, déjà là, doit saisir des notions techniques, médicales, mais aussi l'émotion de son proche aidant. Il y a tout l'aspect de solitude. Si la famille est encore au pays, mais que nous, par exemple, nous étions 4, et là, on a un parent malade, bien, on n'a pas le soutien de la famille physiquement pour venir visiter, donner des soins, que ce soit même juste pour l'aide à la vie domestique, aider avec le ménage, sortir les poubelles. Des fois, c'est des petits gestes qu'on apprécie comme proche aidant qui viennent de l'extérieur, mais là, la famille n'est pas proche. La communication avec notre famille à l'étranger, quoi dire, quoi ne pas dire, est-ce qu'on veut les alarmer sur l'état de notre, tu sais, de l'aider. On veut pas les déranger, on veut rester fort, on veut donner cette image-là. Donc, comment nous, on peut soutenir les familles dans tout ce processus-là aussi, qui parfois, dans tout ce qui est théorie, on n'en parle pas assez. On parle beaucoup de la famille unie sur un territoire versus une des familles éclatées. Puis on parle d'immigration, mais imaginez que la famille est juste au Nouveau-Brunswick, là, une province
du Canada.
Oui, exactement. Ou juste l'autre côté de la frontière, arrive la COVID-19, ben là, la famille nord-américaine, tu sais, des États-Unis, ne peuvent pas venir visiter. Il y a plein de situations qui font que ces gens-là ont besoin de parler. Puis parfois, on n'arrive pas à trouver dans notre réseau ce genre d'écoute-là. L'être humain aime beaucoup donner des conseils. On n'aime pas ça voir notre être cher vivre des émotions négatives. Donc, le fait de rencontrer des intervenants, ça permet d'ouvrir la soupape et de laisser aller, justement, puis sans jugement. On est là vraiment pour observer seulement.
Est-ce que le Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay couvre un large territoire?
Nous couvrons 6 municipalités. Donc, autant la région rurale, Sainte-Martine, Saint-Urbain, Saint-Isidore, mais aussi Mercier, Liry, Châteauguay.
Et est-ce que vos services sont gratuits?
Oui, nos services sont gratuits.
Annick Hall, en terminant, comment vous contacter? Là, c'est quoi la meilleure façon pour contacter le Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay?
J'ai les bénévoles à la réception, que ça va leur faire plaisir de vous écouter. 450-699-6289, donc par téléphone, ça peut être par courriel aussi.
Parfait.
Ça peut être aller visiter notre site web ou aller voir le répertoire des ressources de l'appui. Et vous allez trouver les ressources là, dans... partout sur vos territoires, vos régions.
Est-ce que votre équipe de bénévoles est complète?
Non, jamais.
Il y a toujours de la place.
Toujours du roulement, toujours des nouveaux besoins. Donc, toujours à la recherche de bénévoles ponctuels ou hebdomadaires, si on peut dire.
Bon, alors j'invite les gens à aller visiter votre site web, CAB pour Centre d'action bénévole, chateauguay.org. Annick Hall, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ben, merci, Hélène. Merci à tout le monde et bonne année.
Bonne année encore une fois. À la prochaine.
Au revoir.